Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'ours russe et le panda chinois, une menace économique pour l'Occident. Le rapprochement sino-russe, confirmé et consolidé par la guerre en Ukraine, représente un nouveau défi pour l'Europe et les États-Unis. Mais cette idylle entre Moscou et Pékin est-elle solide et surtout durable? Eh bien, des réponses avec mon invité. Alice Ekman est chercheuse responsable Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne et elle vient de publier chez Gallimard un ouvrage intitulé « Chine-Russie, le grand rapprochement ». Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Alors Staline dirait Chine-Russie, combien de divisions économiques? Important ou pas?
Oui, mais on note réellement aujourd'hui un rapprochement économique entre Pékin et Moscou, un rapprochement qui n'est pas nouveau, ça fait plus de 10 ans, notamment près de 10 ans, pardon, depuis 2014, suite à l'annexion de la Crimée, les sanctions occidentales qui touchent la Russie se tourne vers l'Est. Ouais. Pas uniquement la Chine, également le Japon et d'autres pays, l'Inde. Et à ce moment-là, lorsque la Russie se tourne vers l'Est, l'analyse communément partagée était de dire ce n'est qu'un mariage d'intérêts entre la Chine et la Russie.
Ce n'est que conjoncturel.
Ce n'est conjoncturel, c'est pragmatique. Ouais. La Russie n'a pas d'autre option, n'a pas d'autre choix. Mais il y a trop de points de tension entre Pékin et Moscou, il n'y a pas assez de convergence politique, conceptuelle, idéologique, pour que ce rapprochement puisse durer dans le temps. Mais aussi, il y a trop de déséquilibre entre la deuxième et la onzième puissance économique mondiale. Mais ce déséquilibre est bien réel, comme vous le savez, Ali. Et bien sûr, il y a un déséquilibre. La puissance économique chinoise est bien supérieure à la puissance économique russe. On peut aussi avoir aussi un déséquilibre au niveau démographique. Puis même, quand on regarde l'économie au sens strict, l'économie russe repose principalement sur l'exportation d'hydrocarbures, alors que la Chine est aussi une puissance
beaucoup
technologique
plus diversifiée.
Donc ce déséquilibre existe, mais le rapprochement dure. Il n'est clairement pas qu'un mariage, un rapprochement limité dans le temps. Ça va bientôt faire 10 ans que ce rapprochement existe. En 2022, le volume des échanges commerciaux a augmenté de 30% par rapport à 2021. Et on peut dire aujourd'hui que ce rapprochement a résisté à ce qu'on pourrait dire le test de la guerre en Ukraine, malheureusement. C'est-à-dire que l'invasion russe de l'Ukraine aurait laissé penser que la Chine allait se distancier, revoir sa relation avec son partenaire, son voisin important qui est la Russie, notamment compte tenu des pressions de l'Union européenne, qui est un partenaire économique majeur pour la Chine. Et la rationalité économique nous aurait amené à penser que la Chine allait ajuster sa position.
Sauf que ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas, mais du tout.
Votre thèse, c'est qu'il y a vraiment une entente qui va, formater les relations internationales du monde dans les prochaines années.
C'est-à-dire que le rapprochement Chine-Russie est en grande partie consolidé par l'antagonisme vis-à-vis des États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que la rivalité Chine, États-Unis, comme vous le savez, Ali, est de long terme. Elle est visible à plusieurs niveaux, au niveau commercial, au niveau technologique, maintenant aussi au niveau politique et dans une certaine mesure idéologique. Et face à cette rivalité qui est de long terme, indépendamment quasiment des résultats des élections présidentielles américaines, même si ça aura un impact, mais on voit qu'il y a un consensus bipartisan à Washington sur le fait que la Chine est perçue comme une menace, face à ce constat, la Chine considère que la relation avec la Russie est primordiale pour gagner finalement cette compétition à terme avec les États-Unis. Et donc faire front commun face aux États-Unis et à plus largement ce que la Chine appelle l'Occident est l'objectif de la Chine qui cherche depuis plus de 10 ans à réduire son isolement, c'est-à-dire à construire une coalition de pays au sein duquel la Russie est un pilier majeur. Et on voit qu'il y a une coordination croissante entre Pékin et Moscou aux Nations Unies, par exemple sur la péninsule coréenne, puisque tous les deux se sont opposés à l'adoption de sanctions visant la Corée du Nord suite à de nombreux tests l'année dernière et encore actuellement. Les deux pays ont des positions convergentes sur quasiment tous les enjeux et les conflits régionaux et mondiaux aujourd'hui. Et la Chine réellement soutient Moscou au niveau politique et diplomatique depuis l'invasion russe de l'Ukraine.
On va revenir sur l'économie. Partenaire junior ou pas, maintenant, la Russie vis-à-vis du géant chinois ou pas?
Oui, bien sûr que c'est un partenaire junior. Ça, je ne le conteste pas, ni dans le livre et puis l'analyse globale, c'est évident. Ce que je conteste, c'est que c'est la conclusion qui nous amène à dire, compte tenu de ce déséquilibre ou de ce junior partnership, la relation ne peut pas durer. Oui. Tout d'abord, le déséquilibre n'est pas visible dans tous les domaines. Maintenant, le premier pays destinataire de pétrole russe est la Chine. Bien sûr, la Chine est assez intelligente pour négocier des tarifs avantageux ses nouveaux accords énergétiques, l'Inde aussi. Ouais. Mais la Chine est la destination première. Et réellement, il y a aussi une complémentarité entre l'économie russe et l'économie chinoise. La Russie, par ailleurs, est une puissance spatiale, puissance nucléaire, pas uniquement militaire, mais civile. Et la Chine en est bien consciente. La Russie est un marché intéressant pour les voitures chinoises, notamment les véhicules
premier,
électriques.
D'ailleurs.
Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas
ce
unique, mais premier. Et puis, au niveau politique et diplomatique, on a vraiment vu une intensification des rencontres et des échanges commerciaux, entre les présidents, mais aussi au niveau ministériel, très, très importante. Xi Jinping s'est rendu en Russie lors d'une visite d'État en mars dernier. Récemment, Vladimir Poutine s'est rendu en Chine pour le troisième forum des nouvelles routes de la soie. Une semaine plus tard, c'est le ministre de la Défense, Shou Yu, qui s'est rendu en Chine. Alors, on pourrait dire, oui, mais ce n'est que des rencontres. Non, la régularité des rencontres est très intense. Et la coopération économique est planifiée sur le long terme. Lorsqu'on regarde à l'issue de ces rencontres, les documents conjoints qui sont signés et adoptés, il y a réellement une planification sur 20-25 ans. De la coopération pas uniquement énergétique, technologique, dans le domaine agricole. Cette coopération est planifiée indépendamment de l'évolution de la guerre en Ukraine. C'est ça qui est intéressant de noter.
Alors, Asie centrale, c'était un peu la chasse gardée de Moscou. Vous dites dans le livre qu'il y a peut-être un accord qui se décide entre le fait que Moscou va garder la main sécuritaire, mais que Pékin va augmenter sa part de marché et donc sa puissance économique. C'est ça ou pas ?
Disons que la rivalité en Asie centrale n'est pas un frein au rapprochement Chine-Russie. On a souvent dit, vous vous souvenez, Ali, que la relation ne peut pas durer parce qu'elle est pragmatique, de court terme, que la Russie n'a pas d'autre choix. Mais aussi, on a souvent mentionné deux points de tension entre la Chine et la Russie. Le premier, c'est les tensions démographiques en Sibérie.
Ouais. Et en fait, vous dites que c'est pas...
Alors clairement, lorsqu'on regarde les chiffres, non. Il y a plutôt un retrait, en fait, de la population chinoise en Sibérie, parce que tout simplement, les salaires maintenant sont plus intéressants côté chinois que côté russe, et pour différentes raisons. Il n'y a pas une menace d'un envahissement de la population chinoise en Sibérie, et c'est pas un point de tension majeur entre, je dis pas qu'il y a pas de point de tension du tout au niveau de la frontière, mais c'est pas un point de tension majeur entre deux pays. Et puis clairement, au niveau de la frontière, il y a plus de différents frontaliers.
Les deux pays ont accepté
depuis
les frontières.
Depuis les années 90, et progressivement, les deux pays font tout pour stabiliser cette frontière. Et c'est important parce que c'est ce qui oppose la Chine et l'Inde. Là, il y a un différent frontalier qui est même encore meurtrier encore ces dernières années. Et ce n'est pas du tout le cas entre la Chine et la Russie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les diplomates chinois aujourd'hui font régulièrement référence à cette frontière très importante. Et c'est cette volonté historique de stabiliser la relation. Actuellement, alors qu'on pose beaucoup de questions aux Chinois. Pour revenir à votre question sur l'Asie centrale, bien sûr qu'il y a une compétition entre la Chine et la Russie dans la région, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la Chine fait tout pour ménager la Russie dans la région. Par exemple, elle souligne la complémentarité avec ses projets d'infrastructure et les nouvelles routes de la soie. Au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a des exercices militaires conjoints qui sont effectués dans la région en relativement bonne entente.
Il y a un projet de Moscou de zone euro-asiatique là-dessus.
Oui.
C'est respecté par Pékin.
L'Union économique eurasiatique est fréquemment mentionnée par Pékin comme un projet d'intérêt complémentaire avec les nouvelles routes de la soie. Ce n'est pas uniquement de la communication, c'est-à-dire que la Chine fait attention aussi à réellement ménager les intérêts russes dans la région. Alors, ce n'est pas total, parce que, bien sûr, tout n'est pas planifié de manière totalement cohérente, mais il n'y a pas, en tout cas, aujourd'hui, de rivalité profonde entre la Chine et la Russie en Asie centrale, en tout cas, pas au point de remettre en cause le rapprochement que nous notons depuis 10 ans. Donc, on est quand même sur des rails de long terme entre la Chine et
pas
la Russie.
Pas de ligne rouge de Pékin, particulièrement sur l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine ?
Alors, c'est souvent un point qui est mentionné. Les diplomates chinois ne le disent pas, mais les think tanks chinois souvent le disent à demi-mot, qu'ils étaient embêtés par l'invasion russe de l'Ukraine et que la question nucléaire, bien sûr, est centrale, qu'ils sont contre l'utilisation de l'arme nucléaire ou la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire, y compris dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais vous vous souvenez que donc, ce dossier, le sujet du nucléaire, avait été évoqué par Xi Jinping lors de cette sa visite en Russie, visite d'État et sa rencontre avec Vladimir Poutine en mars. Deux semaines après, la Russie avait annoncé le déploiement sur le territoire biélorusse d'armes nucléaires. Ouais. Mais la Chine n'a pas finalement tiqué, publiquement, n'a pas émis d'insatisfaction, de critique. Et aujourd'hui encore, quand le sujet est avancé, ce n'est pas un sujet qui freine le rapprochement sino-russe. Au contraire, les relations militaires augmentent et l'exercice militaire conjoint entre la Chine et la Russie se poursuivent. Donc j'ai l'impression réellement qu'il y a en surface une communication chinoise sur l'importance de ne pas utiliser l'arme nucléaire, etc. Mais en profondeur, un soutien réel et affirmé de la Chine à la Russie qui pointe du doigt l'OTAN, l'Occident, l'Alliance occidentale comme la première responsable de ce qui se passerait en Ukraine. Bien sûr, la situation est plus compliquée, mais ce discours anti-occidental est très virulent en Chine aujourd'hui, très virulent comme vous le savez bien sûr en Russie. Il y a une réelle convergence des discours, mais aussi des positions sur le sujet.
Dernière question, réponse rapide. Est-ce qu'on a conscience réellement en Occident, en Europe en particulier, de ce rapprochement durable entre Moscou et Pékin?
Tout dépend des pays, en fait. Les pays baltes, qui connaissent bien la menace russe et qui l'analysent beaucoup, en sont conscients. Certains pays scandinaves, mais je pense que la relation est encore sous-estimée dans une partie de l'Europe, pas uniquement dans certains États membres, y compris la France, mais aussi à Bruxelles.
Merci beaucoup, Alice Ekpan, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.